Écoutons la parole de Dieu. Je vous invite à suivre la lecture de quelques versets de l'Écriture sainte dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 9. C'est un épisode de la vie de Jésus dans ce que l'Épître aux Hébreux appelle les jours de sa chair, le temps qu'il a passé sur terre comme un homme semblable à nous, hormis le péché. Évangile selon Luc, chapitre 9, verset 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, quelqu'un dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui dit, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme, c'était le titre assez énigmatique dont Jésus usait pour lui-même, donc il veut dire moi. Mais le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Celui-ci répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Il lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Toi, va-t-en annoncer le règne de Dieu. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. Jusqu'ici, notre lecture. La parole que Jésus prononce en réponse à la deuxième personne qu'il a comme interlocuteur dans le passage que nous venons de lire m'est revenue en mémoire en écoutant la radio cette semaine. Il était question de l'inauguration à Gênes, avec beaucoup de joie et de fierté, du pont San Giorgio qui remplace le pont Morandini qui, vous vous le rappelez, s'est effondré le 14 août 2018, pas tout à fait 2 ans. C'est pour l'Italie comme un symbole de résurrection. Ce pays a beaucoup souffert ces dernières années et il y avait donc de la joie à l'inauguration de ce nouveau pont. Mais les familles des 43 victimes ont refusé de participer à la cérémonie. On comprend leur peine, on comprend qu'ils soient encore marqués par la tragédie. C'est presque inimaginable. L'automobiliste s'engage sur ce pont qu'il avait sans doute déjà utilisé bien des fois. Et il écoute la radio, il plaisante avec les passagers. Et tout à coup, la voiture se met à tanguer et le pont se disloque. Et tous sont précipités des dizaines de mètres plus bas et dans l'éternité. Cependant, le contraste entre leur refus de participer et la joie de ceux qui inauguraient le nouveau pont m'a fait penser à la parole de Jésus. Devrions-nous dire à ces familles qui sont encore dans le deuil, laisse les morts ensevelir leurs morts? Le sujet est de toute façon d'actualité ces derniers mois pour nous Français, car la crise sanitaire a empêché de nombreuses familles d'ensevelir leurs morts de la manière normale et habituelle. Et ça a été une souffrance pour beaucoup. Puis il y a un autre petit détail qui a été pour moi comme une confirmation que je devais vous parler de cette parole de Jésus ce matin, que je devais vous la transmettre. J'ai appris vendredi, avant-hier, que le pasteur Michael de Hadjet Lâché, qui était mon ami, pour les anciens, je rappelle que c'est lui qui avait organisé toute la logistique de la fête de l'Évangile aux arènes de Nîmes. Quelques-uns encore en ont le souvenir. ce pasteur qui est décédé au début de l'année, avait choisi comme texte de la prédication du service funèbre précisément cette parole. Laisse les morts ensevelir leurs morts. Alors je vous invite à trois choses. D'abord, à mesurer le choc. Ensuite, à saisir l'intention de ces paroles de Jésus. Et puis à prolonger la réflexion sous le titre « Choisir la vie ». D'abord, donc, mesurer le choc. La parole de Jésus est choquante. Elle nous paraît terriblement dure. Nous sommes quelque peu secoués, même peut-être repoussés par cette manière de parler de Jésus à quelqu'un qui parle de la perte de son père. En fait, Jésus est assez coutumier du choc, des paroles destinées à choquer. Quand on scrute un peu sa manière de faire dans les évangiles, on se rend compte que c'est une stratégie qu'il met en œuvre assez souvent. C'est, si vous voulez, sa pédagogie. Jésus utilise des paradoxes violents. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Celui qui la perdra la sauvera. Jésus parle de manière très, très, très abrupte assez souvent. Et je pense qu'il faut comprendre d'abord que le grand obstacle à l'œuvre de la parole pour Jésus, c'est une écoute distraite. Une écoute où on n'écoute pas. Une écoute où les paroles qu'on entend arrivent dans une oreille et sortent par l'autre, comme on dit. Et Jésus utilise la méthode du choc pour capter l'attention et pour que les paroles s'impriment dans la mémoire. Mais il faut regarder d'un peu plus près sa manière de choquer par cette parole que nous considérons. La première chose à dire, c'est que s'il y a dureté, ce n'est une pure apparence. Comme quand il a eu l'air d'être dur et de refuser à la femme syrophénicienne en lui disant « Le pain, ce n'est pas pour les chiens, hein, les petits chiens, c'est pour les enfants, donc ce n'est pas pour toi. » C'était très très dur, mais c'était une apparence. Jésus savait exactement ce qu'il fallait. Il a suscité une foi admirable chez cette femme qui n'aurait pas pu sans cette pédagogie-là. Jésus use d'une apparence de dureté, mais en fait, son cœur est avec les endeuillés. Jésus est sensible, et je dirais même ultra sensible à la peine de ceux qui pleurent. Et la preuve, on la trouve dans le récit du chapitre 11 de l'Évangile selon Jean, lorsqu'il ressuscite son ami Lazare. Nous avons là le verset le plus court de toute la Bible et qui nous dit à quel point Jésus partage la peine de ceux qui sont dans la peine. Jésus pleura. C'est d'autant plus frappant que Jésus sait d'emblée, dès le départ, il a dit « Cette maladie n'est pas à la mort ». Jésus sait qu'il va le ressusciter et que tout cela, c'est pour la gloire de Dieu, pour manifester qu'il est lui la résurrection et la vie. Et malgré cela, Jésus pleure quand il se trouve devant le tombeau. Il sent tellement à quel point la présence de la mort affecte les êtres humains. Il sent si fort par cette espèce d'empathie qu'il a, si vive, quelle est l'angoisse, quelle est la tristesse des êtres humains qu'il aime, qu'il ne peut pas s'empêcher de pleurer. Jésus a pleuré avec ceux qui pleuraient. Cette parole « Jésus pleura » m'a été très précieuse ces derniers mois. Oui, non, Jésus n'est pas du tout dur. Au contraire, son cœur est tellement, tellement vibrant d'amour qu'il partage le deuil des endeuillés. Alors pourquoi parle-t-il à cet homme qui vient auprès de lui et à qui il dit « Suis-moi » Pourquoi parle-t-il de cette manière apparemment dure? Bon, Jésus connaît le cœur parfaitement de chacun. Et il a probablement discerné chez cet homme, précisément une hésitation, une lenteur à s'engager, une tendance au compromis. C'est un homme qui est venu auprès de lui, donc qui a été déjà quelque peu touché par le message, mais Jésus voit qu'il faut le secouer, qu'il faut y aller plus dur avec lui. Et puis alors, il faut aussi tenir compte de la situation très, très probable de cet échange de paroles. Contrairement à ce que nous pouvons imaginer, ça ne peut pas se situer tout de suite après la mort du père de cet homme. Parce que les coutumes étaient telles en Israël en ce temps-là qu'il est hors de question que s'il venait de perdre son père le jour même ou la veille, il ne pouvait pas se déplacer pour aller rencontrer un rabbin itinérant comme était Jésus. L'enterrement avait lieu normalement le même jour, le jour du décès, ou le lendemain, à très court délai, et tout de suite, tout le monde était là, il était reclus dans la maison, auprès du corps de la personne décédée, donc pas question qu'un fils puisse, si son père était mort le matin, aller ensuite sortir, parler avec Jésus. Non, ce n'est pas possible. Donc ce n'est pas cette situation-là qu'il faut imaginer. Alors laquelle ? Alors il y a certains commentateurs qui ont supposé que le père était encore vivant et que la requête signifiait « Oui, mon père est vieux, mon père va mourir, laisse-moi le temps de l'ensevelir. » Alors je pense quand même que ça c'est exagéré, que l'homme n'aurait pas osé parler de cette façon si son père était vraiment encore vivant. Mais dans un livre d'un théologien évangélique que j'apprécie beaucoup, Craig Kinner, il y a l'information, et il est très très fort pour toutes les sources du premier siècle, donc je crois que c'est fiable, il y a l'information selon laquelle l'ensevelissement se faisait assez régulièrement en deux temps. Il y avait l'ensevelissement immédiat, le jour même, ou à la rigueur le lendemain, la plupart du temps d'ailleurs sans cercueil, le corps était déposé immédiatement dans la terre, et puis plusieurs mois plus tard, souvent à peu près un an plus tard, le fils était chargé de recueillir les os secs, de les mettre dans une boîte et de les placer dans un emplacement spécial du caveau familial ou de la tombe qui était souvent creusée dans le roc, comme il nous est dit dans le cas de Jésus. Donc, en fait, c'était quand même un délai important que cet homme essayait d'obtenir de Jésus. Manifestement, il n'avait pas envie d'obéir immédiatement à l'ordre que le Seigneur lui donnait. Donc, je pense que nous prenons la mesure exacte de la réplique de Jésus devant cette parole qui cherche à gagner du temps, la tendance à ce qu'on appelle la procrastination, c'est-à-dire remettre au lendemain ce qu'on devrait faire le jour même. Et la troisième des paroles qui sont mentionnées de Jésus dans ce passage que nous avons lu va dans le même sens. Là, la personne demande à prendre congé de parents qui sont toujours vivants. Et Jésus, de nouveau, refuse, parce qu'il s'est pris de congé quand même, c'était des fêtes familiales, c'était aussi quelque chose qui prenait un peu de temps. Élie l'avait accordé à Élisée, qu'il demandait quand il a appelé Élisée. Et Élisée a sacrifié plusieurs bœufs, il a fait une grande fête, etc. Et Jésus montre que l'urgence est plus grande encore qu'à l'époque d'Élie et d'Élisée, que le royaume de Dieu fait son entrée dans la vie humaine et qu'il ne faut pas donc atermoyer comme cet homme était tenté de le faire. Et là, nous trouvons l'intention qu'il faut bien saisir l'intention, car Jésus dit clairement, celui qui met la main à la charrue, qui s'apprête à s'engager avec le Seigneur et qui regarde en arrière, il n'est pas bon, propre, apte au royaume de Dieu. Ça ne va pas, ça ne va pas. De même, si celui qui manie la charrue, les charrues étaient légères, paraît-il, se met à regarder en arrière, le sillon va dévier ce ne sera pas un travail correct. De même, celui qui regarde en arrière, qui ne s'engage pas totalement avec une netteté parfaite, celui-là, eh bien, il n'est pas vraiment en accord avec le royaume de Dieu et son exigence. Il y a un détachement qui est nécessaire. Si des attachements subsistent qui retiennent de s'engager entièrement pour le Seigneur, alors la vie humaine s'engage fort mal dans la voie du royaume. Ce n'est pas ce que Jésus demande, ce que Jésus offre à ceux qui veulent être ses disciples. Alors la rupture, le détachement dont il est question ici, et l'intention de Jésus, c'est de montrer que c'est nécessaire. Cette rupture peut impliquer des renoncements désagréables, sinon douloureux. Et Jésus en donne l'exemple lui-même. Là, c'est la première parole des trois dialogues de notre passage. Tous les animaux, ils ont de quoi se reposer quelque part. Les renards, ils ont leur trou. Les oiseaux, ils ont des nids. Mais moi, le Fils de l'homme, je n'ai même pas un oreiller à moi. Jésus a consenti au renoncement de la pauvreté, de la fatigue, de la précarité pour remplir son ministère, pour que le royaume de Dieu entre dans l'histoire humaine. C'était par lui seulement que cela pouvait se faire. Pour que ce royaume de Dieu entre, Jésus a dû renoncer. Il s'est fait pauvre, de riche qu'il était. Alors ce n'est pas que la pauvreté soit une vertu en soi, c'est pour la mission qu'il avait à remplir. Les richesses sont aussi une bénédiction dans l'Écriture. Mais pour servir le Seigneur, il faut être prêt à des renoncements qui sont coûteux à l'exemple de Jésus lui-même. Alors je dis bien, il faut être prêt, car si nous appliquons la parole à notre situation, je pense que l'ensemble de l'Écriture sainte nous montre que Dieu, le Seigneur Jésus, ne demande pas à tout le monde d'abandonner toutes ses richesses, de se mettre à abandonner son emploi et à marcher avec lui sur les routes. Il y a diversité de situations selon la volonté de Dieu. On le voit bien par les exhortations aux riches, par exemple, qui restent des riches dans la première épître à Timothée. Non, nous n'avons pas une règle en quelque sorte qui s'appliquerait automatiquement, mécaniquement à la vie de tous les chrétiens. Et il faut être simplement prêt si le Seigneur le demande. Cette parole, je la trouve terrible. Elle me fait trembler. D'une part, parce que je me dis, est-ce que je serai prêt? Est-ce que je serai prêt si le Seigneur le demande? Et parce que je vois quelle tentation s'attache à ce fait que ce n'est pas automatique et mécanique. Il y a des sectes qui vous oblige, oui, c'est la contrainte, automatiquement, vous devez donner tous vos biens, automatiquement. Alors, en un sens, c'est plus facile, parce qu'on est soumis à un joug légal et on n'a pas à se poser de questions, alors qu'avec la liberté chrétienne, la liberté selon l'Évangile, nous sommes placés devant des décisions. Le Seigneur ne le demande pas pendant longtemps, nous nous habituons à notre confort. Et puis si le Seigneur le demande, quelle tentation pour nous d'éluder sa demande et de dire non, pas tout de suite Seigneur. Donc c'est une parole exigeante, peut-être plus exigeante encore parce que ce n'est pas automatique, Parce que tout dépendra de ce que le Seigneur nous montrera à nous chacun, des renoncements nécessaires pour faire l'œuvre du royaume avec lui. Mais ayant bien saisi cette intention, il reste quand même une grande question qui se pose. Pourquoi est-ce que Jésus emploie ce langage de mort? Pourquoi cette façon si brusque de dire « laisse les morts ensevelir leurs morts » Bien sûr, Jésus joue sur les deux sens du mot mort. Il parle des morts spirituelles qui enterrent leurs morts au sens ordinaire. Mais en jouant sur les mots, comme il lui arrive assez souvent, là aussi. Par exemple, quand il a dit devant le temple, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours, il parlait du temple de son corps. Jésus joue sur les transitions de sens, souvent avec les mêmes mots. Mais pourquoi est-ce que Jésus, donc, parle à ce point de mort dans cette situation? Ce n'est pas qu'il condamne les rites funéraires, qu'il condamne les cérémonies de deuil. Peut-être blâmerait-il certains excès, parce qu'il y a des excès. Mais le reste de la Bible nous montre bien que ces cérémonies de deuil sont tout à fait légitimes, elles ne sont pas condamnées à aucun endroit, ni par Jésus lui-même. Donc, ce n'est pas cela. Alors, pourquoi? Je crois qu'il veut désigner la vie ordinaire, la vie terrestre, comme une sphère de mort. Alors, dans quel sens? De quelle façon? Je vois deux façons principales. D'abord, il nous rappelle avec réalisme la présence de la mort dans notre vie ordinaire. Et oui, la mort est là qui rôde, la mort est là qui nous ronge. Tous, même les jeunes. Alors bien sûr, au fur et à mesure qu'on vieillit, ça devient de plus en plus net. Je le sais. Calvin a des paroles extrêmement fortes à ce propos que je vais vous lire. Il faut dire qu'il y a un bulletin de maladie de Calvin qui était assez extraordinaire. Il a envoyé une liste de tout ce dont il souffrait à des médecins protestants à Montpellier qui lui avaient demandé pour lui donner des conseils. C'est hallucinant, hein, de tout ce dont il souffrait. Et bien sûr, il n'avait pas les remèdes que nous avons. Mais dans l'Institution chrétienne, son livre principal, il écrit ceci. La vie humaine est environnée et quasi assiégée de misères infinies. Sans aller plus loin, puisque notre corps est un réceptacle de 1000 maladies, et même en nourrit en soi les causes, quelque part où aille l'homme, il porte plusieurs espèces de mort avec soi, tellement qu'il traîne sa vie quasi enveloppé avec la mort. C'est sombre, mais c'est réaliste, c'est réaliste. Et je pense que Jésus nous le rappelle aussi. Jésus a assez souvent rappelé à ses interlocuteurs l'échéance de la mort. Insensé, cette nuit même, ta vie te sera redemandée. Les gens de la tour de Siloé qui sont morts parce que la tour s'est écroulée, ils n'étaient pas plus pécheurs que vous, et la même chose peut vous arriver. Jésus a assez souvent ce langage d'un réalisme qui chasse en quelque sorte nos illusions, les illusions par lesquelles nous essayons de calmer nos angoisses, mais l'angoisse est toujours là quand même au fond. C'est la première raison, c'est du réalisme. Et la deuxième raison est plus profonde et nous conduit finalement à l'intention suprême de Jésus dans ce dialogue. La vie ordinaire est une sphère de mort pour quiconque y reste emprisonné, pour quiconque y trouve son horizon ultime, pour quiconque y reste attaché comme à son attachement. Oui, celui qui n'a pas d'autre horizon que cette vie humaine qui borne toujours la mort, finalement, s'il est lucide, il se rend compte que c'est toujours la mort qui gagne. Et même les valeurs, même les choses agréables, qui sont dues à la grâce de Dieu, à la grâce commune de Dieu, même tout cela perd sa saveur. Si on se dit tout ça va finir, c'est finalement toujours la mort qui gagne. Et même l'héroïsme de quelques-uns qu'on peut admirer. Mais si c'est la mort qui gagne, qu'en restera-t-il finalement? Si on en reste à cette vie ordinaire terrestre, si c'est l'unique réalité à laquelle on se réfère, c'est la mort qui gagne. Voilà pourquoi Jésus attire l'attention sur ce fait. Cet homme qui ne veut pas assez fermement s'engager dans le royaume de Dieu, l'autre réalité, alors il s'enferme dans la mort. Il est un mort spirituel qui n'a commerce qu'avec des morts selon les rites, mais c'est une culture imprégnée de mort que sa culture tout entière. Et si Jésus alors souligne ce fait, c'est parce qu'il apporte autre chose, parce qu'il est le prédicateur et le porteur du royaume de Dieu, du règne de Dieu. La parole laisse les morts ensevelir leurs morts. Elle est encadrée de deux autres paroles. Suis-moi ! Va-t'en annoncer le royaume de Dieu, le règne de Dieu. C'est pour ce message positif que tous les détachements et tous les renoncements que Jésus demande ont lieu. Il y a un royaume de vie auquel il est possible d'accéder en suivant Jésus. Il est lui la résurrection et la vie, comme il a dit au moment où il allait ressusciter Lazare. Il est le vivant au siècle des siècles. Et il a triomphé de la mort en subissant pour nous la mort, de telle sorte que par lui, nous pouvons échapper à ce cercle infernal, à cette sphère fermée de la mort. Voilà le vrai message de la parole que nous méditons ensemble ce matin. Choisis la vie de Jésus. Choisis la vie en le suivant. Et tu auras le privilège en plus de participer même à l'édification de ce royaume de la vie. Tu pourras en répandre le témoignage et en gagner d'autres à ce royaume, à cette vie. Voilà les perspectives que le Seigneur Jésus ouvre devant nous aujourd'hui. Amen.